Alors, bonjour, bonjour aux auditeurs, bonjour, ici c'est une interview téléphonique, vous êtes bien dans Tea Time avec Bernard et puis ses invités, mais aujourd'hui j'ai un honneur et un plaisir particulier. Je suis avec Monsieur Christian Descamps. Monsieur Christian Descamps, si je vous dis ça, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais si je vous parle du groupe Ange, le leader du groupe Ange, le leader c'était l'un des premiers groupes rock en les années 70, il est là parmi nous au téléphone. Bonjour Monsieur Christian Descamps.
Ça va bien.
Ça va, vous allez bien?
Oui, très bien. Moi, je repars sur la route, donc. Enfin, on est toujours sur la route, de toute façon. Alors, donc, je me plais sur la route. Pas... Les kilomètres, ça pèse maintenant. C'est toujours. Ce qui est le plus chiant dans la vie, c'est d'aller d'un point à un autre. Quand je pense qu'il y en a qui attendent 11 mois pour partir en vacances, mais moi, j'ai des millions de kilomètres dans les pattes, donc. Je préfère les heures passées sur scène et passées dans les studios, quoi.
J'ai à côté de moi Moon. Moon, qui est une artiste du Nord, qui a une musique personnelle, comme vous avez la vôtre personnelle. Je vais vous la présenter. Bonjour, Moon.
Bonjour, Bernard. Bonjour, Christian.
Bonjour, Moon.
Et on a la chance et le plaisir que vous avoir au téléphone. Alors, le groupe Ange, il existe depuis quand?
Depuis le 31 janvier 70, premier concert... au Centre culturel de la Pépinière à Belfort, dans le territoire de Belfort. Et voilà, on a travaillé sur cette fantastique épopée du général Machin en septembre 69. Et puis on s'est produit pour la première fois, donc ce 31 janvier 70. Et donc on va fêter les 50 ans du groupe le 31 janvier 2020.
Oui, au Trianon à Paris.
Oui, exactement, oui.
Trianon à Paris. Mais Ange, vous m'avez parlé du général Machin. En fait, le général Machin, c'était un opéra qui a duré 3 heures, c'est ça?
Oui, ça a duré 3 heures. C'était, c'est venu de mes, en fait, c'était mes parents quand j'étais adolescent qui me parlaient de, qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale et qui parlaient de tout ce qui s'était passé parce qu'ils ont œuvré, ma mère comme résistante et mon père dans l'armée qui a libéré, qui a fait le débarquement en Italie, enfin tout ça, et toute cette histoire, ils nous racontaient tout ce qui s'est passé, quoi. Et en fait, c'est en fait le plus jamais ça qui a fait que j'ai voulu écrire un opéra avec beaucoup de dérision sur un général Machin qu'on pourrait appeler une espèce de fou, quoi, qui reviendrait et qui serait en possession de l'arme atomique. Et puis finalement, le dernier morceau de l'opéra s'appelait Atome. Atome, c'est la fin de l'homme. À l'époque, c'était très, très, c'était un peu moins métaphorique, je veux dire. On allait droit au but, quoi.
Oui, mais Ange, pour dire aux auditeurs, aux jeunes, parce que tous les anciens vous connaissent, dans les années 70, vous étiez le groupe rock numéro 1 en France. Vous avez quand même à votre actif 6 disques d'or, mais des disques d'or, c'est pas comme maintenant. Enfin, je vais pas critiquer les disques d'or maintenant, mais un disque d'or à l'époque, c'était combien de millions d'albums vendus?
100 000 albums, donc 100 000, mais ils ont été plusieurs fois disques d'or, en fait, hein, parce que un album comme Le Cimetière des Arlequins s'est vendu à 500-600 000 albums, hein, je veux dire. On a vendu environ 6 millions d'albums.
6 millions, oui. Vous avez 6 millions d'albums en tout.
Sur la carrière.
Oui, sur votre carrière, et vous continuez à en vendre.
Voilà, ça va, là, oui, on ne fait plus les 6 000 personnes qu'on faisait dans les palais des sports en 77, par exemple, mais on enlève un zéro, on est dans les 600 personnes par concert, mais c'est très bien.
Oui, tiens.
Ça nous permet de continuer, parce que comme le disait Aznavour, on ne peut pas être numéro 1 toute sa vie, quoi. C'est évident que pendant pas loin de 8 années, on a tenu le haut du pavé dans ce milieu-là, le milieu du rock prog, enfin, et on a continué. C'est ce qui a fait que Ange est toujours là, et on a continué de produire des albums, de créer, et c'est l'excitation de vouloir créer, quoi, c'est-à-dire aller vers l'inconnu. Moi l'inconnu m'excite toujours, enfin, je sais pas, j'aime bien ne pas savoir où on va, mais découvrir ou d'inventer des choses, parce que pour moi moi, dans la vie, il y a la vie, l'amour, la mort et l'imaginaire. Et c'est tout. Je vois pas très bien ce qu'on
mais
peut
trouver. Mais c'est déjà beaucoup.
Oui, c'est déjà, ouais, surtout
c'est déjà beaucoup. Puis moi, je voudrais dire quand même, vous avez un magnifique parcours. Et puis, d'être justement là encore, toujours à faire votre métier. Mais moi, je trouve ça vraiment, quel est le secret de votre longévité? Parce qu'en plus, vous avez un projet qui est, enfin un projet, c'est plus un projet, mais qui est vraiment personnel, particulier. Donc, vous avez rencontré votre public assez vite, mais enfin voilà, c'est quoi le secret de...
Enfin, assez vite, on a vraiment tourné avec un vieux camion devant 60-80 personnes,
oui,
pendant deux ans.
Oui.
Enfin, je veux dire, on a traîné nos guêtres. À l'époque, on partait à l'aventure sur les routes. Et c'était audacieux. Et on a gagné notre public à force de jouer.
Oui.
Et en donnant le meilleur de nous-mêmes, mais inconsciemment, parce que en fait c'est l'inconscient qui fait que. Et avec Ange, il n'y a jamais eu de plan de carrière, de plan marketing ou de plan machin.
Oui.
C'était, on avait envie de raconter des histoires,
oui,
et de faire rêver des gens pendant plus de deux heures. Et c'était l'essentiel, quoi. Je veux dire.
Oui.
Après l'album, j'ai toujours considéré ça un album studio comme une carte postale, quoi. Je veux dire.
Oui, oui, l'instantané d'un moment donné, en fait.
Voilà.
Ouais.
Mais je préfère de loin le live.
Oui.
Et comme je préfère le théâtre aussi, au cinéma. Je parle en tant qu'acteur, hein, je veux dire, parce que j'ai joué du théâtre aussi en tant que comédien. Mais le cinéma ne m'excite pas plus que ça, sauf peut-être d'être réalisateur ou pas de réaliser ou de mettre en scène. Mais en tant qu'acteur, je préfère le théâtre de loin, quoi, parce que c'est vivant, c'est spontané, c'est là. On est avec,
ouais,
les gens,
c'est,
et c'est jamais la même chose.
C'est dans l'urgence et il faut être bon à ce moment-là, et c'est ça qui est,
oui,
qui est bon dans le rapport à la scène.
Voilà, on est sur un fil,
oui,
et le public, c'est le balancier.
Mm.
Il nous tient en équilibre.
Oui,
et,
mais en parlant de votre public, Christian, si je peux me permettre, quel âge il a actuellement, votre public? Enfin, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais est-ce que vous avez le public jeune, il réagit comment?
Là, déjà, on va se mettre d'accord. J'ai pas trouvé d'autre moyen pour vivre que de vieillir.
Ah, je dis toujours la même chose.
Du coup, je vous conseille de le faire. Vous verrez, ça marche bien.
Oui.
Donc, parce qu'il y a ce truc, il y a cette image d'Épinal, enfin, cette espèce de lieu commun, qui fait qu'on dit, quand on dit vieux, excusez-moi, hein, c'est pas péjoratif. On me dit, bon, maintenant, vous êtes. Mais oui, je vois pas très bien quoi faire d'autre que de devenir vieux pour
si
vivre.
Si ce n'est de mourir, absolument.
Et donc, c'est beau parce qu'on a tout un. On a toute la force du passé, les racines. Enfin, je compare toujours à un groupe comme Ange, je le compare à un chêne. C'est parti d'une semence, on a les racines, on se lance, et puis après il y a la sève qui monte dans la passion, c'est la sève, et puis après il y a les floraisons, il y a le printemps, puis justement aujourd'hui c'est le printemps, donc c'est le jour du printemps aujourd'hui, donc ça tombe bien. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est un renouveau. Et c'est vrai que la société a tort de cloisonner comme des espèces. En fait, vous avez le bébé, l'enfant, l'ado, l'adulte et les vieux. Et en fait, tout est fait pour dissocier ces différents... différents instants de la vie,
de la
quoi,
vie.
Je veux dire. Alors qu'en fait, nous ne sommes qu'un embryon en
évolution.
En mutation. Ouais. Un homme, c'est un embryon. Enfin, un humain, c'est un embryon en mutation.
Ouais.
C'est tout.
Permanente.
Ouais. Voilà. Mais tout a été fait, et maintenant, avec la machine de guerre que j'appelle les médias, tout a été fait pour cloisonner. Parce que ça rapporte au niveau commercial, tout ce qui est par exemple la mode, tout ce qui est mode, tout ce qui est film, musique, tout ça, tout est cloisonné, et en fait tout est étudié, et donc j'en reviens au public à la question de Bernard. là. Donc, il y a quelques décennies qui viennent nous voir. C'est surtout les gens de 40 à 60. Et ensuite, puis d'autres au-delà de 60, c'est évident. Mais il y a les gamins qui viennent aussi, qui sont moins nombreux, mais qui sont là et qui veulent découvrir. Parce que dans cette génération de mômes qui de 16 à 30 ans, par exemple, il y en a beaucoup qui veulent découvrir. Il y en a d'autres qui se laissent mener par le bout du nez, par les tendances médiatico-obsessionnelles. Mais à côté de ça, il y a toujours des curieux. Et moi, je me souviens quand j'avais 18-20 ans, c'était plaisant de découvrir des groupes, des musiques, et puis quand je pouvais le faire, quand j'avais un peu d'argent de poche, de pouvoir me déplacer pour aller voir un concert un artiste que j'avais découvert par le biais de la radio ou par en discutant avec des potes, toute cette époque du vinyle et des 45 tours, tout ça. Tout a changé maintenant parce que la technologie a été un grand bouleversement dans l'industrie musicale.
C'est
dommage parce que mais des fois, que reste-t-il de l'artistique, quoi, des fois, alors que l'esthétisme et l'artistique, c'est ce qu'il y a d'important. La plupart des artistes ils sont sollicités pour produire un titre qui doit accrocher, qui doit marcher.
Heureusement, il n'y a pas que des artistes comme ceux-là, d'ailleurs, parce que sinon, ce serait la mort de... Ouais, puis il y en a d'autres, mais c'est vrai que le but, c'est vraiment de défendre des esthétiques qui soient personnelles et honnêtes avec soi-même, pas forcément dans le but de réussir ou de... Bah, évidemment, on a envie que ce soit entendu, on est bien d'accord. Et moi aussi, je suis une artiste de live, il n'y a que ça. C'est pour ça que l'album, il est enregistré en live, d'ailleurs, parce que pour moi, c'est là que ça se passe. Mais c'est vrai qu'il y a... Tout est fait pour orienter les goûts, vers des chemins très particuliers, quoi.
Voilà, ça l'a toujours été.
Ouais. Mais c'est les outils de diffusion peut-être qui ont beaucoup changé la donne aussi.
Ouais, mais même à mes débuts, à nos débuts. Il était impossible de passer un titre qui allait au-delà de 3 minutes 40. Oui. Je veux dire, c'était nous on a eu la chance à un moment donné. D'être aidé par RTL, parce que pourquoi aussi, parce qu'on a tiré aussi beaucoup de monde.
Oui, Jean-Bernard Rébé qui a eu beaucoup d'apport.
Jean-Bernard Rébé, oui. Et donc oui, on a mais ce qui est intéressant, c'est justement le pouvoir. Ça n'a pas changé, je voulais dire, c'est ça exactement, oui. J'en reviens à ce truc-là. C'est que les morceaux longs ou les morceaux. Vraiment les morceaux construits ou conceptuels, on peut les entendre sur des FM à 1h du matin ou minuit ou 3h du matin. C'est exactement la même chose dans les années 70, quoi, je veux dire. Oui. Le système n'a pas changé. Les seuls qui ont bouleversé le système, c'est justement, on en parle en ce moment à cause du film, c'est Queen avec Bohemian Rhapsody. Parce qu'ils ont fait un chef-d'œuvre de 6 minutes et à l'époque, personne ne voulait le passer. Parce qu'ils faisaient 6 minutes. Mais ils ont quand même.
Oui, et puis alors les ponts, les breaks, les. Enfin bref.
Mais c'est un chef-d'œuvre.
Oui, absolument.
C'est un chef-d'œuvre. Et il y a bon nombre d'artistes qui font des chefs-d'œuvre. Oui. Il y a un artiste qu'on n'entend pas souvent en radio, qu'on n'entend pas vraiment en radio, et que j'adore, c'est Feu Chatterton. Et Feu Chatterton, je trouve le mec, il écrit vachement bien. Et c'est un jeune groupe.
Oui.
Et moi, ça me fait penser à Ange au tout début, quoi, je veux dire. Mais on les entend pas franchement sur les ondes, quoi, je veux dire.
Oui.
Ben moi, je peux pas dire que j'écoute beaucoup la radio non plus, en voiture un peu, mais bon, c'est tout le temps la même chose, et c'est de pire en pire maintenant. C'est
plus formatisé, c'est plus canalisé, la musique.
Formaté, oui, tout est. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a des artistes comme nous, comme Moon ou d'autres, il y en a, et Dieu sait qu'il y en a,
oui,
à travers la France, qui continuent à fonctionner en indépendant et qui se battent pour l'art, déjà au départ. Oui. C'est-à-dire le frisson que l'on a sur scène à transmettre ce qu'on a écrit. C'est-à-dire, Emoun, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est au moment où on écrit un titre,
oui.
Et à un moment, quand on a trouvé le truc, puis quand ça nous fait des frissons dans tout le corps, mmh. Et on se dit à ce moment-là, comment le public
va sûrement aimer
quand je leur chanterai ça. Ouais. Je pense que il va se produire quelque chose de fort, et ça sera des instants, ce seront des instants inoubliables, quoi.
Oui, écoute, moi je dirais la même chose, c'est-à-dire que on sait quand on tient quelque chose, et c'est vrai que le premier ému, finalement, c'est l'auteur. Je compose aussi. On est les premiers touchés parce qu'on écrit soi-même. Et c'est vrai qu'après ce frisson-là, il glisse vers les autres finalement. Parce que nous, on est toujours dans le frisson d'après, le morceau d'après. Quand on le présente, il a déjà une maturité. Enfin, ça fait. Nous, il nous est familier déjà. Oui, mais ce frisson de départ, c'est vrai que ça, c'est vraiment l'indicateur pour savoir si je vais aller mouiller devant des gens et mettre mes tripes là, ces tripes là, et puis prendre le risque aussi de ne pas être reçu. Hein. Je dirais, il y a aussi ça, on ne le sait jamais d'avance. Mais quand on est bien reçu, qu'est-ce que ça fait du bien ?
Bien sûr.
Enfin, vous le savez très bien.
En général, tout se passe bien.
Oui. C'est vrai.
Donc, je suis très content de vous avoir mis en contact, Moon, et puis vous, parce que je crois que vous avez beaucoup de choses en commun.
C'est surtout ce côté-là, et ce rapport avec le public, quoi, c'est sûr. Et le public, c'est le boss.
Ouais.
On peut l'oublier, c'est lui le patron.
C'est vrai.
Et je dis toujours, il n'y a pas de mauvais public. Il y a des mauvais artistes, mais il n'y a pas de mauvais public.
Oui, mais enfin, je vais quand même. Vous êtes toujours sur le 104.3 d'Antitam avec nous aujourd'hui. Christian, non pas Christian, qu'est-ce que je raconte?
C'est Christian Descamps,
c'est Christian, bien sûr. Christian comment?
Descamps.
Christian Descamps, pardon. Christian Descamps du groupe Ange, groupe mythique qui a démarré son existence dans les années 70, qui va fêter en 2020 au Trianon à Paris ses 50 ans d'existence. Donc si vous avez 50 ans d'existence, jeune homme, si je peux me permettre, c'est quand même qu'il y a un talent certain, pour pas dire un certain talent, pas dans votre écriture. Et c'est vrai que moi je vous ai connu quand j'étais un peu plus jeune, et j'ai trois disques de vous, Au-delà du délire, Cimetière des Aléquins, et puis un troisième, et comment ?
Émile Jacoté.
Oui, et je me lasse pas. Il y a une de vos chansons que j'adore, il y en a de plein, mais c'est ces gens-là de Brel. Alors là, quand votre interprétation personnelle, c'est magnifique. Quand on va voir Ange, on est surpris, il y a du texte, il y a de la musique, il y a des morceaux qui tiennent la route. Enfin, ce que je dis n'est pas méchant, mais ce que je veux dire, il y a une histoire, c'est fantastique. Et par contre, j'ai une question à vous poser. On ne va pas parler des salles françaises, parce que le Zénith, l'Olympia, tout ça, ça vous est connu. Par contre, vous êtes allé faire, vous avez fait quand même 30 000 spectateurs au Riding Festival en Angleterre.
Il n'y avait pas que nous, hein, je veux dire, mais on a joué devant 30 000, c'est une opportunité, un festival, c'est génial, quoi.
Il y avait le petit groupe qui s'appelait Genesis, je crois.
Qui passait à la fin.
Il passait après vous, ça, c'est un détail, ça.
Non, hein? Mais il y avait des tas de gens à l'époque, oui, et on a eu une standing ovation au début de l'après-midi, parce qu'on passait à 13h30, 14h. On jouait trois quarts d'heure, mais pas plus, hein. Pas une minute de plus, sinon les Anglais coupent le courant. Donc on a fait vraiment un truc, ça a été pour nous un souvenir impérissable. Ça.
Mais vous êtes allé aux États-Unis aussi?
Oui, on a joué dans un festival de rock prog dans une ville qui s'appelle Bethlehem, à côté de Philadelphie, ouais. Et dans les années 2000, en 2008, je crois, c'est ça.
Oui.
On est allé au Japon, en Russie, en 97, au Mexique, un peu partout dans le monde, oui.
Mais la question là, c'est que en fait, comme l'écriture est très poétique, c'est du français.
Oui.
Comment c'est reçu justement à l'étranger, ce genre? Enfin, voilà, un texte qui est vraiment pas du langage courant, c'est soutenu et
oui,
c'est très poétique.
Oui.
Donc,
comment c'est reçu? En particulier les Japonais.
Oui.
Les Japonais, quand ils aiment le son de la voix. S'ils
D'accord.
comprennent pas au départ.
D'accord.
Ils s'en fichent, c'est que ce soit David Bowie, Ange ou.
Oui.
Eux d'abord, ils écoutent la mélodie, le son que ça produit, et ils voient bien le feeling, la chose qui. En fait, la musique, elle transmet des ondes.
Des émotions.
Elle transmet une force.
Oui.
Et ça, c'est au niveau planétaire.
Oui.
Mais après, les Japonais, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont curieux et ils traduisent. Et ils arrivent, ou ils font traduire les textes et les métaphores. Ils
D'accord.
essaient de comprendre ce que voulait dire telle ou telle phrase. Et j'ai eu des fans, moi, japonais, qui m'ont demandé, et là, quand vous dites ça, ils m'ont envoyé des mails en me demandant ce que voulait dire telle ou telle phrase, et la profondeur de ce que ce que ça signifiait, quoi, je veux dire.
Oui.
Ils sont curieux.
Oui, d'accord.
Et il y a beaucoup de au Mexique, c'est autre chose. Les latinos, parce que dans ce festival il y avait des gens qui venaient de Colombie, du Chili, enfin de partout, de ce coin-là, et en fait là c'est la chaleur. Ils sont chauds parce qu'ils sont latinos, donc ils sont, c'est pas comme les Japonais. La langue, les latinos, ça vient du latin, comme nous, quoi, je
oui,
veux dire. Donc
ouais.
y a d'autres ressentis qui sont différents.
Ouais.
Quoi.
D'accord.
Et là, on a fait aussi vraiment un tabac, une standing ovation entre chaque morceau. Les gens se levaient. Et en particulier, quand mon fils Tristan a repris le bal des las de Paul Naref,
ouais,
seul au clavier.
Oui.
Et où Tristan a une voix extraordinaire.
Oui.
Avant le concert, il n'osait pas la faire. Il me dit, tu crois qu'ils vont pas comprendre, toi, les Mexicains, les Chiliens,
oui,
les machins. Enfin bon. J'ai dit, fais-la. Je te dis, ils vont ressentir, tu verras.
Oui.
Et il l'a fait. Et il a eu la plus belle standing ovation du concert, quoi. Je veux dire,
c'était
très fort. Donc, oui. Pour moi, la langue, quelle qu'elle soit, hein,
oui,
la
oui.
langue n'est pas une barrière en ce qui concerne
la musique,
ce qu'on appelle la musique, la chanson.
Ouais.
Parce que tous les opéras, il y a des opéras en chantant en allemand, en français, en italien, en tout ce qu'on veut, quoi, je veux dire.
Ouais.
Et ça fonctionne partout. Quoi,
oui.
je veux dire,
c'est vrai.
Mais où trouvez-vous votre inspiration? Parce que chaque chanson raconte une histoire. Chaque chanson que je regarde, même quand vous êtes sur scène, c'est une mise en scène, c'est une pièce de théâtre. Ça raconte. Où vous trouvez ça, toutes vos inspirations?
Je ne veux pas vous livrer mon secret. Hein.
Non.
C'est non. un secret que je ne peux dévoiler puisque je ne le connais pas.
Ah ouais, parce que vraiment vous avez un répertoire
non,
très...
c'est surtout un plaisir de jouer et des personnages, tout dépend de la chanson. On joue des personnages, des fois un personnage qui peut être un être violent, qui me ressemble pas du tout. Ici, et autrement, il y a d'autres chansons qui sont pleines de tendresse ou pleines de grivoiserie. Enfin, on peut pas passer de tous les sentiments dans la musique d'Ange. On chante tout, quoi.
On passe par toutes les émotions.
Oui, même quelqu'un qui a bu. Je sais pas si vous aviez bu réellement, mais quelqu'un qui a bu.
Oui, mais il y a tout ça, mais il faut passer aussi à toutes ces la génération qui joue avec moi maintenant. Donc mon frère est parti en 95. Donc Ange a 50 ans, mais les 25 premières années, il y a eu beaucoup de changements de personnel dans ces 25 années. Et la formation originale n'a duré que 4 ans, véritablement. Donc il faut le savoir que la formation qui tourne en ce moment avec moi, ça fera en 2020, ça fera 25 ans qu'ils sont avec moi. Donc c'est la formation
qui a duré le plus longtemps.
Fidèle et la plus. Ouais. Donc et cette formation là, elle a fait des albums. On a fait des albums. Mmh. Là, la création. Donc il ne faut pas rester que sur les racines.
Oui.
Racines qui forcent le respect, pas de problème. Mais moi, je suis pas un nostalgique. Je trouve que la nostalgie est un fléau pour l'humanité tout entière, d'ailleurs. Et je trouve que ce qu'il faut...
C'est devant qui compte.
N'est plus à faire.
Oui.
On ne sait ce que sera demain, mais on sait ce que hier fut.
Oui, tout à fait. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est l'inconnu qui vous motive, quoi. Aller vers des choses, justement, qui n'ont pas encore été faites. C'est ça qui motive.
Si on se met à... Quand je vois certains fans, parce que j'appelle, moi je me méfie, je suis malheureux pour eux. Parce que des nostalgiques de la première heure, des gens qui viennent me voir et me disent « Ah, oh, j'étais fan, je vous ai suivi jusqu'en 76 ou jusqu'en 78. » Et puis j'ai dit au gars « Mais, et puis après pourquoi ?» J'ai dit « Je peux te le dire, tu t'es marié, tu as des gosses, tu as divorcé. » Il me dit, mais comment tu sais ça? J'ai dit, ouais, tous fait ça. et les mecs, ils en veulent, il y en a quelques-uns qui en veulent à l'artiste.
Oui, de ne plus être ce qu'il a été.
Il va lui dire, vous avez changé.
Oui.
Il dit, mais non, excuse-moi. Moi, j'ai pas changé, je suis toujours chanteur du groupe Ange. Je compose toujours, j'écris. Mais c'est toi, regarde-toi.
Qui n'a pas bougé.
Dans ton miroir, toi, c'est à toi de voir. Si tu veux continuer la route avec nous, si tu veux pas, reste dans ton cimetière, quoi.
Non, mais tout à fait.
Je peux pas chanter. Je peux pas chanter toute ma vie le cimetière des Arlequins. Il est. C'est une chanson extraordinaire que qu'on va chanter plusieurs fois et qu'on chantera encore. Oui. Mais il y a un tel répertoire maintenant et il y a des nouveaux titres comme ce nouvel album qui s'appelle Heureux. Qu'on vient de faire et qui a des titres qui sont magnifiques, quoi. Et ça aussi, il faut l'écouter. Il ne faut pas écouter que tout ce cas. Évidemment, on pense à chaque artiste à son âge d'or, à son truc où il y a beaucoup de monde qui viennent vous voir et puis les disques d'or et tout ça, mais il n'y a pas que ça. L'art en général. On peut grouper le tout. Et j'en reviens à mon histoire de l'arbre avec la nostalgie.
Branches,
pour moi, la nostalgie, c'est une souche d'arbre. Ça veut dire qu'on a coupé.
Ah. Et qu'il a arrêté de pousser, finalement. Il a arrêté de vivre.
Et il n'est plus là. Mmh. Il n'est plus là. Alors qu'un groupe qui, tel qu'il est conçu, Ange, tel qu'il a fait sa carrière, lui, il a continué de donner
des feuilles, des fruits, tous les ans.
Et il a continué avec le respect qu'il a pour le public. Il a continué d'inventer des histoires et continuer. Même si on a des préférences sur certains albums, moi aussi j'ai des préférences. On a des albums extraordinaires dans la seconde période, ce que j'appelle les derniers 25 ans.
Oui.
Des albums comme La voiture à eau ou Culinaire Lingus ou on a plein d'albums comme ça, sous fleurs de verre, point d'interrogation, enfin, c'est tout.
Mais moi, je crois que votre public, finalement, les gens qui vous aiment, de toute façon, ce qu'ils aiment, c'est ça, c'est d'être emmené, justement, à chaque fois, quelque part où on ne s'attend pas, en fait, d'être emmené. Et c'est ça, la qualité d'un artiste, il me semble, en tout cas. Et vous l'avez, ce truc-là. C'est-à-dire que, en fait, on ne sait jamais très exactement où on va aller, mais on a envie d'y aller avec vous.
C'est ça, oui.
Donc, c'est ça qui est...
aussi la jouissance de créer. Et moi, c'est pour ça que je vis. C'est pour ça que je suis là. Enfin, en ce qui me concerne, moi, je continue et je motive. Et on se motive tous les uns les autres quand on monte sur scène. Un groupe, c'est pas une personne, c'est une osmose. Et puis voilà, et l'équipe que j'ai maintenant depuis bientôt 25 ans,
oui.
ils sont fantastiques. Quoi. Mm-hmm. Et il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de...
Bon. D'ailleurs, le processus justement de création au niveau de la musique, je me posais la question. Donc j'imagine que c'est collégial en fait. Donc vous, vous arrivez avec juste un texte ou vous arrivez avec une mélodie? Comment ça se passe?
Non, j'arrive avec des mélodies, enfin, des piano-voix ou guitare-voix.
D'accord.
Et après on arrange ensemble, en général. Hein, je généralise. Hein.
Oui.
Il arrive aussi que mon fils ou un autre musicien vienne avec une maquette et fredonne un truc et là on travaille dessus. Quoi,
d'accord. Je veux dire,
et à partir du moment où ça plaît à tout le monde, on attaque, on fait de façon à ce que ce soit. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un peu comme un alambi, hein. On met les fruits et puis on distille, quoi.
Ouais.
C'est ça, les arrangements, en fait, c'est une distillation, quoi.
Ouais.
Et on fait monter en degré l'album. et voilà, quoi. C'est de l'agneau, là.
Avec... C'est le même effet psychotrope en tout cas.
Oui, mais là on peut consommer sans modération.
Ouais, mais l'agneau aussi.
On risque pas de se faire contrôler. Ça.
Tout à fait. On va entamer déjà, ça fait déjà 30 minutes qu'on est ensemble, le temps passe vite. On va entamer une dernière partie, enfin une dernière, moi je vais choisir. Vos projets, on vous voit où là?
Déjà vivre le plus longtemps possible pour pouvoir créer. Ça, c'est déjà le projet principal.
C'est un bon projet.
C'est
essentiel, on va dire essentiel. On a les 50 ans, c'est-à-dire après on va continuer sur 2020-2021 avec une setlist qui va fêter plus précisément les 50 années, après le Trianon, je veux dire. Après, on ira jouer un peu partout et je pense que on fera une année sabbatique en 2022.
D'accord. Vous allez venir dans les Hauts-de-France?
Je vais en parler parce que ça situe justement ça concerne les Hauts-de-France.
Oui.
C'est-à-dire que le fan clan de Ange s'appelle Un pied dans la marge.
Oui. Ouais.
Il est à Anzin.
D'accord.
Donc il est près de Valenciennes.
Près de Valenciennes.
Et donc le gros des gens qui s'occupent de ce fan clan, des bénévoles et sont dans le nord, sont des ch'tis. Hein, donc,
d'accord.
On monte souvent dans le nord faire des réunions, des envois. Et alors on a qui dit association dit évidemment une adhésion avec des 4 magazines trimestriels.
D'accord.
Qui s'appelle Plouc Magazine, puisque le parisianisme nous considère comme des ploucs. J'ai pris ça au troisième degré. Et donc, voilà. Et donc, Plouc Magazine. Et là-dedans, j'entretiens une rubrique qui s'appelle Le Filon, où il y a des produits, où je fais une petite. Quelques lignes, enfin, une dizaine de, sur des albums, des productions indépendantes, de gens qui font des trucs.
Ben d'accord.
Alors, comme ça, ça fait connaître des gens aux adhérents.
Mmh.
On a quand même en moyenne 1000 adhérents par an.
D'accord.
Okay. Et ça dure depuis, ça va faire 22 ans maintenant.
D'accord.
Et donc, ça fonctionne bien. Et donc, Moon, on pourra mettre ton album là-dedans, quoi.
Eh ben, voilà. C'est magnifique, ça. D'accord.
Et puis, chaque année, il y a un DVD collector qui sort pour les adhérents. Et donc, les adhérents qu'on appelle les imbibés.
Les imbibés.
Donc, ça a un rapport avec l'alambi, finalement.
Aussi, oui, j'ai l'impression, oui. L'agnole.
L'agnole.
Ok. Bon, bah, d'accord.
Voilà. Donc, les projets, oui, les projets, j'ai plein d'autres projets d'écriture. Enfin, j'écris en collaboration avec un journaliste, un ancien journaliste de Rock et Folk et d'RTL, qui s'appelle Jean-Noël Coge, qui est du Nord, d'ailleurs, qui habite Moucron, plutôt Belgique, limitrophe.
Oui.
Et donc, avec qui je suis en train d'écrire toute une vidange. Et donc, moi, j'écris mes ressentis, et lui, il raconte plutôt le côté journalistique, enfin journaliste, et moi c'est mes ressentis depuis ma naissance jusqu'à l'arrivée de Ange. Et donc ça va être un très chouette bouquin qui sera original, qui sera pas biographie. C'est pas une vraie biographie, c'est une, c'est des histoires, des ressentis, des états d'âme sur ce groupe qui est fondamentalement.
Qui doit sortir quand, du coup? C'est pour quand ça?
Ça, il doit sortir en 2020.
D'accord. Okay.
Ah oui, j'espère que tu viendras nous en reparler.
Oui, oui. Ben bien sûr, mais pas de souci. On reste en contact. De toute façon, il suffit de.
Ah oui, il n'y a pas de problème. Donc, moi, j'allais te poser une question. Je voulais te mettre en boîte, mais je crois que je vais avoir un retour de bâton. J'allais te demander si vous connaissiez un plat du Nord. Mais comme vous venez souvent dans le Nord, vous devez connaître des plats du Nord.
Ouais, la carbonade.
La carbonade avec des frites et une bonne bière.
Voilà, c'est ça, oui. Mais j'aime pas quand elle est trop... C'est du sucre. J'adore le sucré salé, ouais. Mais j'aime pas quand il y a trop de sucre. Mmh. Donc, il faut vraiment savoir la doser. Hein, c'est comme une chanson, ça, il faut savoir composer. Hein, il y a des carbonades réussies et d'autres...
Ça,
c'est un peu comme la choucroute en Alsace. Quoi. C'est des plats, oui, j'aime bien. On y mange bien dans le Nord, c'est bien.
Ah oui, on y mange bien.
J'ai un pan de frites.
C'est ce que j'allais dire, on a des bonnes frites en plus.
Bon, là, une fois, des bonnes frites avec une petite mayonnaise, c'est très bon.
Oui,
ça.
Oui. Voilà.
Je vais vous poser une dernière question, parce que votre temps est certainement précieux. Est-ce que vous avez une anecdote de concert, une bonne ou une mauvaise, à nous raconter? Vous en devez en avoir plein, parce que 50 ans de carrière...
J'en ai des tonnes. C'est difficile, là. Hein.
Ouais, je vous prends de court, là. J'aurais dû vous
prendre. Il y en a déjà une, puisque je vous en ai parlé, c'était... On a parlé du festival de Reading, quoi, de ce moment intense. Et l'anecdote, c'est que... En fait, je reviendrai sur ce truc-là, parce que au début, quand on répétait dans des curies à cochons désaffectés près de Belfort, pour devenir ange, en fait, finalement, fin 69, et on jouait et avec les potes, on écoutait les Beatles, on écoutait tous ces Sgt. Pepper's, tous ces trucs-là, et King Kong, et tout ça. Et puis on regardait, on lisait la presse spécialisée, et on voyait des photos de festivals comme Woodstock, l'île de Wight, et tout ça. Et puis, un soir, j'ai dit aux autres, vous verrez, un jour, on ira en Angleterre, et on jouera sur une scène, dans un festival et tout. Et ils sont tous foutus de ma gueule, en me disant, mais t'es complètement tapé, on y va, si tu veux qu'on aille foutre la majeure. J'ai dit, vous verrez. Et en fait, j'ai été aussi étonné que d'ailleurs, que quand on nous a dit, vous allez jouer à Reading. Parce qu'on était tombé sur un manager, enfin un type qui connaissait, qui avait des attaches en Angleterre. Et en fait on a commencé à tourner dans les universités en Angleterre dès 73. Jusqu'en 76, on a fait 120 concerts en Angleterre. Et l'anecdote, c'est que avant de monter sur scène, on avait une loge qui était une tente, une espèce de barnum avec un mât, comme des mâts de cirque. Et le guitariste, il était tellement anxieux, le trac tellement excité, qu'il est monté le long du poteau, il est allé jusqu'au dessus, quoi. Donc il est descendu, parce qu'on va aller jouer, tu vois, il n'en revenait pas.
Non, je veux pas y aller.
On allait jouer devant tout ce monde, quoi, oui. Je veux dire. C'est très impressionnant. Et oui, c'était... Il y a eu des tonnes d'anecdotes. On a fait Johnny Circus aussi, puisqu'on a fait la première partie de l'idée avec son circus en 72, pendant 60 concerts. Donc ça a été aussi des souvenirs. J'ai le souvenir d'un mec absolument gentil, agréable, sympathique, et vraiment, on peut s'en faire très vite un pote. Enfin, c'était un pote sur la tournée. C'est à l'idée. Pour moi, ça reste un mec fidèle en amitié et qui était...
Ah, mais il fait partie des...
Donc, c'est une grande leçon de métier au niveau scène. Oui. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'ai pas d'album d'Alidé, de toute façon.
Non, mais on peut reconnaître la qualité de l'artiste, mais quand même, quoi, c'est ça.
Voilà, mais c'était un mec qui... Et quand il m'a rencontré dans un congrès phonogramme au bras de Nathalie Baye 10 ans après, en 82. On s'était pas revu depuis 72. Oui. Il me croise et il me dit « Ah, salut mon ange, comment tu vas ?»
Ah, ça fait plaisir.
Moi,
ça.
C'est quelqu'un, il reconnaît, il sait qu'on était... Il avait été très marqué par Ange, d'ailleurs.
D'accord.
Et on avait discuté longuement ensemble. Un coup, derrière le cirque, il y avait personne, et puis on était peinards dans une bière. Et il en avait marre de s'appeler Johnny Hallyday. Il me l'a dit.
Ah oui, déjà en 72, il le disait déjà.
Ah bah, il disait, je voudrais m'appeler. Ouais, je voudrais faire comme toi, il disait. Je voudrais faire un groupe qui s'appellerait Smet.
Ouais.
Je serais le chanteur, et ça serait un vrai groupe. Parce que lui, ce qu'il enviait, c'est la force qu'avait Ange sur scène, c'était un vrai groupe. Quoi.
Oui.
Et il voulait plus être cette
personne.
Il dit, c'est devenu ringard. À l'époque, tu comprends. Eddie Mitchell, Dick Rivers, tous ces noms comme ça. On était fans d'Elvis Presley, on s'était américanisé. Mais maintenant, comme ça, arrivé en 72, il a été un peu dans un creux de la vague, dans le creux de la vague. Il réfléchissait, quoi. Mais il a jamais pu se débarrasser de ce pseudonyme. Il a jamais pu. Et pourtant, il en avait vraiment envie. Quand il m'en a parlé, il en avait vraiment envie. Mais pour le public, c'est... Et la France, c'est ça. C'est-à-dire, la France, pour résumer, que ce soit en musique, en tout, ils gueulent tout le temps, ils veulent que ça change, et dès qu'on change...
Ça va plus.
Là, c'est le Gaulois.
Bon, on veut bien changer, mais sans trop de changement, quoi.
Voilà. C'est le Gaulois. C'est tout à fait... l'esprit gaulois typique, ça c'est sûr.
Bon, j'ai une petite question musicale là, parce que ça c'est un truc qui m'a toujours un petit peu... C'est qu'avoir deux organistes dans un groupe, finalement, c'est pas très courant, bien qu'on sache que les claviers sont beaucoup utilisés, surtout dans ce type de musique, le rock progressif, mais deux organistes et tout le temps en fait, même encore aujourd'hui.
Ben là, maintenant... Dans le jeu actuel, je ne joue que peu de claviers.
D'accord.
Un clavier additionnel. Je chante beaucoup.
D'accord.
J'ai beaucoup de chant et je joue un peu de guitare. Je m'accompagne à la guitare sur deux titres.
D'accord.
Mais je me suis consacré vraiment
au chant.
Beaucoup plus au chant.
Ouais.
Et j'ai laissé la part belle des claviers à mon fils.
Oui, d'accord. Mais
je fais quelques nappes. Parce que tout dépend du répertoire qu'il y a, parce que il y a des répertoires qui demandent deux claviers, quoi.
Ouais.
C'est une orchestration, hein. On orchestre. Il y a des titres qui sont absolument fabuleux, hein. En fait, qui sont écrits pour deux claviers, quoi. Voilà.
Mais là, c'est pas trop le cas finalement sur Heureux, c'est ça en fait.
Heureux. Enfin, sur l'album, si. Il y a d'autres morceaux, mais les morceaux que l'on fait. En ce moment, ne demande pas beaucoup de...
Deux claviers en permanence, quoi.
En permanence.
D'accord. Ok.
C'est justement, ça change un peu.
Oui.
Une tournée, elle fait toujours... Enfin, une setlist, elle fait à peu près 2 ans et demi de durée.
Ouais.
Et après, on change, on passe à autre chose, où là, il y aura certainement... J'aurai plus d'intervention clavier, où je chanterai des...
Non, mais moi j'ai hâte de voir la formule actuelle, comment ça va être. Voilà.
Voilà, j'espère qu'on
ça change et c'est très bien.
Ça sera le dernier, parce qu'on démarre à Argenteuil vendredi.
Oui, d'accord.
Et puis après, on va à côté de à Tours.
Oui.
Et puis là, Et là, on a en première partie un breton qui s'appelle Patomé.
Oui, d'accord.
Et qui a un très bon guitariste. Et qui est un peu dans l'esprit Gary Moore.
Ouais, d'accord.
Et c'est une bonne... Ils joueront une demi-heure, et puis après, on joue pratiquement 2 heures, quoi. Enfin,
d'accord.
Voilà, voilà.
Okay.
Bah, c'est parfait.
Super.
On va vous laisser. On rappelle qu'on est sur le 104.3 d'Antitime, Radio Plus, avec en invité exceptionnel Christian du groupe Ange. J'ai oublié le nom.
Descamps.
Christian Descamps. Excuse-moi.
Des candidats-t-on
du groupe Ange, groupe mythique, groupe qui a bercé toute ma jeunesse, qui me berce encore.
Paillet, voilà le nostalgique qui arrive.
Non, parce que c'est
moi,
vraiment...
Moi, j'aspire dimanche.
Tu as bercé ma jeunesse.
Bah oui, j'ai quand même 66 ans, donc...
Non, mais moi, j'ai 73, ça me change... Ça ne change pas, j'ai envie de composer d'autres trucs.
Ah, mais justement, c'est ce que j'allais dire, qui me berce encore actuellement. Moi, je connais.
Ah bon?
Je connais peu de groupes, à part, je vais dire, les Rolling Stones, Deep Purple, etc., qui me bercent encore actuellement. Et il y a le groupe Ange qui fait partie de ces groupes-là.
Ah, bravo, Bernard, ben, c'est super.
c'est ça que je voulais dire. Qu'on va trouver, Mona va nous le dire, ouais, et qui a sorti son dernier album qui s'appelle.
Heureux.
C'est tout de vous, monsieur Christian.
Non, faut pas exagérer. Hein. J'ai une vie aussi.
pour terminer là-dessus, parce qu'il nous a inspiré le titre de l'album, c'est la citation de Prévert qui dit « Et si l'on essayait d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple ?»
Oui. C'est une très belle phrase.
Et en fait, c'est ça qui m'a inspiré pour écrire cet
d'accord,
album. Parce
que d'accord.
Des fois, je compte sur un truc et c'est un déclencheur. Quoi. C'est comme si on allumait une mèche.
Voilà.
Bah, c'est un beau déclencheur, en tout cas.
En tout cas, j'ai vendu la mèche.
On sait tout maintenant.
Donc, merci et à bientôt.